Vous écoutez
RMC.
RMC.
Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18.
On m'a des facio des fois. Moi, j'ai jamais des facio parce que j'ai des facio, je prends 10 mètres.
Hey, monsieur, le carton, il faut donner le carton.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h05, messieurs, dames, Daniel Riello, Florent Gautreau sont là, Sébastien Bassong avec nous ce soir et Julien Laurence de passage parmi nous. Oui, on va parler d'Angleterre, hein, mais finissons quand même sur la Ligue 1, parce que demain il y a le PSG qui pourrait être champion demain en fonction des résultats. Luis Enrique en conférence de presse aujourd'hui, les gars. Alors, je ne sais pas, Julien, si, Sébastien, si vous avez suivi ça, mais Luis Enrique, j'ai l'impression que c'est le personnage le plus clivant du foot français depuis...
Il n'est pas du tout clivant.
Depuis, je ne sais pas, Eric Cantona, peut-être.
Mais pas du tout. Clivant, c'est quand il a unanimité pour le soutenir. Il n'est pas clivant du tout.
Et bien sûr qu'il est clivant, parce qu'il n'y a justement pas d'unanimité.
Ouais, il y a ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime.
Exactement. Ceux qu'il n'aime pas.
Toi, tu l'appelles Joe Trouve-Tout.
Dugarry.
Christophe Dugarry et moi.
Il peut énerver parfois même... dans ses réponses.
Ouais, il peut être un peu.
L'attitude.
Ouais, c'est assez étonnant. Enfin, moi, je m'étonne tous les jours de ce clivage. En tout cas, aujourd'hui, en conférence de presse, il y a un journaliste qui lui dit, un gars du Chiringuito qui était là, et qui lui dit : je voulais vous demander quand même, c'est pas un peu bizarre qu'Mbappé reste sur le banc après avoir dit un jour que c'était le meilleur joueur du monde ? Et là, donc c'est par rapport au match de Lyon. Hein. Voilà. Et donc là, Luis Enrique a dit : écoutez, moi, je suis prêt à parler d'Mbappé, mais j'en parlerai quand lui en aura parlé d'abord. Ça veut dire qu'il y a quand même un truc qu'il faut qu'il sorte.
Quand, là, quand il aura parlé de quoi ?
Bah, du fait de rester sur le banc. Voilà. Donc il y a quand même un... je m'étais étonné dimanche soir qu'il soit sur le banc, tout le monde m'était tombé dessus, mais apparemment je suis quand même pas le seul. Et puis aujourd'hui, il dit Luis Enrique, il y a pas de 11 types.
On l'avait remarqué.
Non, il dit l'important c'est pas ça, l'important c'est comment on joue. Il y a pas de 11 types. L'important c'est comment on gagne, comment on joue. L'important c'est l'objectif.
Il peut y avoir deux joueurs en très grande forme, mais selon ce que je vois à l'entraînement, ouais, je peux faire un choix complètement différent. Et ça j'aime bien. Je suis d'accord avec Daniel.
Je trouve que ce qu'il a fait, il l'a fait très vite, mais on en a très peu parlé dès le début de la saison. Je prends l'exemple de Marquinhos. C'est passé presque crème au départ. Il a mis Marquinhos sur le banc. Certains disent : ah, c'est peut-être parce qu'il a un petit souci et tout. Non, il a mis Marquinhos sur le banc en lui disant, comme il a mis Vitinha sur le banc à un moment donné, et Vitinha était très étonné, était venu le voir en lui demandant : coach, j'ai un problème, je ne comprends pas. Il a dit : non, non, ça va être comme ça. En fait, j'ai besoin de voir d'autres joueurs et à tout moment, tu pourras revenir. Ouais. Et aujourd'hui, Vitinha est son titulaire, il n'y a pas de problème. Et comme Marquinhos est son titulaire. Donc, le fait de challenger les joueurs, bah, effectivement, c'est le cas. Et il a raison parce qu'il met ses joueurs sous pression. Mais aussi, effectivement, les autres équipes qui ne savent pas exactement ce qu'il va faire. Donc,
imagine
ce qu'il avait dit.
Il a Chelsea sous la main, avec 50 joueurs, t'as le turnover, il s'en sort plus. Hein.
Mais je pense qu'il n'y
pas tous les prénoms.
À la différence de Pochettino, je pense que Luis Enrique, par exemple, qui ne viendrait pas, par exemple, dans un projet.
Ah non, ne pas.
Ouais. C'est ça la différence.
Mais déjà, il faut savoir que quand Pochettino il vient, il n'est pas dans la même.
Pochettino, il cachetonne un peu.
Ouais, mais il n'est pas dans la même situation. Il est à la recherche d'un club. Je pense que psychologiquement, je ne pense pas que s'il avait été dans un club et qu'il avait décidé de partir, il serait parti à Chelsea. Ah, aujourd'hui, dans la mentalité d'un Luis Enrique,
franchement, lui aussi cherche un club. Hein, après
ouais, mais ils n'ont pas le même. Je pense que la manière dont ils expriment leur caractère et leur manière de penser, aujourd'hui, Luis Enrique est beaucoup plus, entre guillemets, provocateur qu'un Pochettino.
Oui, ça c'est certain.
Beaucoup plus provocateur. Donc aujourd'hui, il va assumer quand il dit que son projet, moi j'adore ça depuis le départ, comment il le mène, parce qu'aujourd'hui, il arrive à faire penser à ses détracteurs que oui, sincèrement, la star, entre guillemets, c'est l'équipe et qu'il n'a pas de 11 titulaires. Ce qui va, là, c'est une masterclass pour rentrer dans la tête des joueurs, dire qu'à un moment donné, ça prend du temps, parce qu'on vous change votre programmation.
Le seul bémol à ça, c'est que la star, c'est pas l'équipe. La star, c'est lui.
Ouais,
ça c'est
vrai. Oui, mais en fait, je veux dire...
Il faut pas se tromper là-dessus.
Non, quand même, en fait, la star, c'est vrai.
La star, c'est lui.
Non, en fait, je vais pas dire...
Non, c'est le paratonnerre, Daniel.
Ah, non.
C'est le paratonnerre.
Paratonnerre, j'aime bien cette expression.
Les joueurs prennent pas, c'est lui qui prend.
Tu
lui en mets plein la gueule.
Je préfère que... Il a cet ego.
Peut-être.
Il a cet ego, mais qui était nécessaire pour changer la donne dans une équipe, dans un club comme celui du Paris Saint-Germain. Pour faire ce qu'il fait aujourd'hui,
n'oubliez pas une chose essentielle, c'est que c'est très facile de faire ça au moment où tu as liquidé tous ceux qui ont pourri ton vestiaire pendant des années.
C'est jamais facile. C'est jamais facile pour aucun coach de rentrer comme ça dans la tête des joueurs.
C'est beaucoup plus simple quand tu enlèves Verratti, Neymar, Messi, les mecs qui pourrissaient ton vestiaire.
Avec Mbappé, c'est facile ?
Mais à un moment donné...
Avec une vedette, une star, un mec qui a un poids comme ça, Daniel, tu crois pas qu'il, est fort pour arriver à faire ça avec Mbappé ?
Moi, je pense qu'il est très fort. Je pense que Neymar et Verratti, il faut savoir ce qu'ils faisaient dans le vestiaire. C'est quand même beaucoup plus simple.
Neymar et Verratti.
Tu peux au moins reconnaître 2-3 trucs, Flo.
Putain, c'est quand même... Non, mais ça, c'est facile. La parole
à Sébastien. Écoute, écoute la sagesse.
Beaucoup plus simple.
Non, non.
Putain, le vestiaire, il est plus simple.
Le vestiaire, il est plus simple.
Bien évidemment.
Dans certaines situations, c'est pas faux. Parce que, mais ça, c'est des cas isolés. Mais quand Neymar, Verratti ou Messi te fait gagner, en fait, ça devient.
Mais sauf qu'il ne fait pas gagner.
Non, mais je veux dire, hypothétiquement, quand ils te font gagner, parce que par rapport à leur potentiel et leur qualité, cet argument de ah, ça devient, c'est plus simple parce qu'on a liquidé le vestiaire, en fait, c'est à deux poids, deux mesures parce que tu vas te retrouver à un moment donné où ces joueurs-là, ils vont te faire rêver. Et le footballeur et le fan, il est tellement versatile qu'il
absolument
va vite oublier.
Ça, t'as raison.
Il va vite oublier.
Ça, t'as raison. C'est pour ça que je me battais l'année dernière, expliquant mais regardez ce qui se passe dans le vestiaire. Rendez-vous compte que cette équipe n'est pas un collectif et qu'elle n'y a nulle part. Et c'est ce que Tuchel disait. Quand Tuchel disait au début, il a mis ses idées en place. Moi, j'adorais ce coach. À un moment, il est mort. Parce qu'il a dit ici, on doit faire de la politique.
Mais parce qu'il a abdiqué. Parce que le coach, quand il dit ça, il a abdiqué vis-à-vis des dirigeants.
Quand tu n'es pas soutenu par les dirigeants, Julien, que tu as Neymar, Mbappé, que les deux sont en guerre, que tu as Verratti qui s'entraîne un jour sur deux, qu'après, bon, c'était pas sous lui, mais après, on te fait arriver Messi, et il n'y a rien qui est contrôlé dans le vestiaire. Bon, moi je dis que c'est mieux quand Campos, parce qu'on oublie aussi, Campos, il a peut-être raté 2-3 trucs, mais il a également aidé à purifier le vestiaire, parce que c'est lui qui a fait en sorte de pousser Neymar et Verratti dehors. Et quand les gens chialaient sur le départ de Verratti, oui, Luis Enrique a dit j'en veux plus. Et ça en revanche,
quand Luis Enrique
a souligné qu'il a bien géré.
Quand Luis Enrique a dit à un joueur important, tu ne joueras pas. Quel coach a dit ça au PSG ces dernières années?
Il y a une autorité qu'il n'y avait pas avant. Ça, c'est sûr.
Non, mais l'autorité, elle est venue aussi. Il arrive après un champ de bataille. C'était un champ de ruines. Toutes les années où on disait la gestion est pourrie, ils empilent les mecs. À un moment, Nasser Al-Khelaïfi, il a mis 5 ans de plus que quelqu'un de normal à comprendre la situation, mais il a fini par la comprendre. Et le rôle de Luis Campos dans le nettoyage, il est également
important. Mais sauf que le caractère de dont parle Sébastien en propos de Luis Enrique. Le caractère dont il fait preuve, c'est aussi cette arrogance peut-être parfois, c'est aussi ce qui lui permet de recevoir un joueur, de lui dire ça avec cette force-là, et pas seulement parce que Luis Campos, c'est parce que c'est Luis Enrique.
Ouais, non,
quand
c'est
un
sûr.
Joueur, ouais, un mec comme ça en face de toi, et je peux dire que le joueur en face de lui se dit ah oui, c'est clair, avec lui, je ne vais pas jouer.
Ah, ça, c'est... Non, mais à part ça, je l'ai vu après le match. Bon, alors d'accord, c'est une victoire, c'est sa victoire à lui, c'est son triomphe, ce qu'on veut, à 10 ou à 11, peu importe. C'était le patron. Dans la zone de Flash Tableau, c'était le patron. Donnarumma était là, Vitinha était là, il y avait d'autres joueurs qui étaient là. C'était le patron
absolu.
Mais ça,
c'est très bien.
Absolu. Dans l'autorité, dans la personnalité, dans l'image qu'il dégageait, dans le. Voilà. Alors, c'est plus facile après une victoire 4-1 que s'ils avaient perdu et s'ils avaient éliminé.
Est-ce que tu as entendu un truc dans le vestiaire du PSG cette année,
Sébastien? À City, Pep, c'est le patron. Qu'on dise à City.
Mais à City, ils ont peur de lui. Je pense qu'il y a des joueurs au PSG qui ont peur de Luis Enrique.
Aujourd'hui, moi, je pense que Luis Enrique, étant un bon tacticien, une personne qui analyse beaucoup les choses, il a eu le temps d'analyser ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années au PSG. Et voilà. Après tous les échecs qui sont passés, aujourd'hui, étant très fort de caractère et voulant montrer sa personnalité et un ego, pour moi, un bon niveau. Je ne dis pas surdimensionné, pour moi, c'est un niveau pour être une star,
un niveau de champion.
Il a réussi aujourd'hui à faire. Il arrive au bon moment. Pour moi, il arrive au bon moment.
Merci. Une bonne phrase.
Il arrive au bon moment parce qu'il a bien analysé.
En termes d'ego, Tuchel, je t'assure qu'il explose tout au moment où il arrive au PSG. L'Europe entière le veut. Tuchel, c'était un ego de malade. Je me souviens avec Polo quand on s'est penché sur le livre. Mais vraiment, il faut le lire, décrire qui est Tuchel à ce moment-là.
Vous vous souvenez de Tuchel
qui fait des câlins à Neymar. La première mission de Tuchel, c'est câliner Neymar pour en faire un joueur qui va être performant chaque semaine et qui va. Et il y arrive pendant 6 mois. Vous vous souvenez les images? Et je te parle dans l'oreille et je te fais un petit câlin. Sauf que Neymar, il lui a chié dessus comme avec tout le monde. Donc quand tu n'as plus tous ces problèmes-là dans le vestiaire, Ouais, ok, c'est mieux. Mais ce que je dis est un constat. C'est pas pour retirer des choses à Luis Enrique que je dis ça. C'est juste que c'est exactement, en quelque sorte, ce qu'a dit Unai Emery dans une interview que j'avais oubliée dans Transversal. On avait fait Emery en 2018 quand il est traumatisé par ce qui s'est passé dans la remontada sur le fait que lui n'a pas été soutenu. Et il explique, il dit un jour ça tournera pour le PSG. Il dit un jour ça se passera mieux parce qu'il y aura des bons choix, parce qu'il y aura un coup de sifflet positif, parce que arriveront les gens aux bonnes places, machin, et l'entraîneur sera plus soutenu. Ok, c'est maintenant. Tant mieux, mais il faut juste être lucide. Il n'y a pas de héros ou de pas héros dans le football.
Il n'y a pas de héros, il y a des gens. Daniel,
parce qu'il y a eu des bons coachs au PSG. Il y a eu un coach excellent.
Il y a eu
un coach excellent.
Les joueurs, pour moi, les joueurs, les clubs, les situations comme le PSG, on a fait beaucoup de comparaisons. Pour moi, il y a une histoire de timing. Chacun son destin. À un moment donné, le destin du PSG est le destin du PSG. Quand on le compare toujours à City, on va le comparer à l'autre grand club qui a beaucoup d'argent. C'est là où, on fausse le débat. Parce que Tuchel, Unai Emery, aujourd'hui Luis Enrique, sont des entraîneurs avec du caractère. Mais à un moment donné, dans l'endurance de l'ego, dans l'endurance de la têtuitesse et le timing, bah oui, il faut être.
J'aime bien l'expression.
L'endurance de la têtuitesse. Parce qu'à un moment donné, il faut être têtu et il faut durer et être vraiment assis sur ses principes. Et là, il y a le timing. Et à un moment donné, les planètes s'alignent. Pour le Sénégal.
Exactement.
Mais tu parles très bien pour lui qu'il a réussi à analyser les choses pour arriver, elles sont alignées.
Dès le début de la saison, on a parlé de planètes qui s'alignent.
Il s'appelle Florent Gautreau, il aime parler de Lucien Riquet.
Je pense que juste le timing, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut un leadership formidable pour arriver à
faire ce qu'il
fait. Non, mais je suis d'accord. Mais je complète.
Tu n'es pas confronté à d'autres.
Je complète juste ce que tu dis. Le timing, ok, les planètes s'alignent, peut-être. Tu as raison sur Luis Campos, tout est vrai. Mais derrière, s'engouffrer dans cette brèche-là et apprendre dès la première minute à dire aux joueurs dont il ne veut plus leur dire en clair et le faire passer même dans la presse. Toi, je te le dis, avec moi, tu ne joueras pas. Cette phrase-là, elle était violente. Mais Verratti, il l'a dit. Ouais. Donc cette phrase-là.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Mbappé?
Et donc derrière, avec Mbappé, effectivement, même si c'est trop tard. Moi, je l'ai expliqué 10 fois. On va pas le refaire.
Le coup de l'offre,
mais je t'ai expliqué que par rapport au dirigeant, il a accepté dans un premier temps de faire ça et que quand effectivement il n'a pas prolongé,
il a dit. Par les dirigeants.
Peut-être.
C'est une grande
nouvelle. Ça change rien.
Daniel, ne t'en déplaise, c'est pas juste à faire timing. T'as un mec qui a des compétences au-dessus des autres, qui a un leadership au-dessus des autres, qui a su dire à des joueurs. Toi, tu vas aller sur le banc parce que t'as besoin d'être challengé. Ton Marquinhos, toi, tu dis Marquinhos, c'est une pleureuse, faut le dégager. Lui dit non, je dégage pas, je challenge pour qu'il devienne meilleur. Vitinha, tu vas être bon. T'es pas sûr d'être titulaire, mais tu seras peut-être titulaire.
Ça,
Mbappé, t'as besoin d'être piqué, je vais te piquer. Voilà, c'est ça le problème. C'est que toi, tu dis juste, faut mettre les gens dehors, faut les garder, faut les mettre dehors.
Oui. Allez, tout en gueule. Luis Enrique,
il a des qualités au-dessus de la moyenne. Tu l'as raté. Daniel, tu as raté ça.
Ça reviendra forcément demain.
Il n'est pas supérieur à Tuchel ni à Emery. Il est soutenu par les dirigeants, c'est complètement différent.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Gilbert Bribois.
23h19, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, Julien Laurence est là, Sébastien Bassong est là. Je rappelle le podcast de Seb, ballon, main, corps. Julien, t'as participé?
Ah ouais, je l'ai invité, il m'a R, comme on dit. Tu vois, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, Julien, tu vois,
il y avait la télé pakistanaise, il avait quoi encore? Il avait un truc, un duplex avec l'Australie.
La télé pakistanaise, tu fais?
Ouais, pour la Coupe du Monde, les Pakistanais.
Mais oui, ils font pas que cricket et pour là, ils font foot, les Pakistanais.
Ouais, ils font, je suis une super grande star au Pakistan.
Non,
je te jure. La Ligue des Champions, on a la Ligue
des Champions. Gardez ça pour un jingle, je suis une grande star au Pakistan.
Non, je vous l'ai dit, en toute humilité, bien sûr.
En toute humilité. Vas-y, sors le pays le plus improbable où tes apparitions ont fait fureur.
L'Inde, la Ligue des Champions, là, c'est pas mal.
L'Inde, c'est 1 milliard de téléspectateurs.
Ah ouais, c'est la folie.
Ouais, Robert, il m'a dit, c'est extraordinaire.
De la folie.
Robert,
il reste.
Ah, c'est vrai qu'il a fait une grande carrière en Inde.
Oh ouais.
La période où tout le monde allait, tu te rappelles, c'est la période où tout le monde allait.
Fred Piquet,
c'est la période où ils sont tous allés croquer.
Pas longtemps, des championnats qui
devaient être. Il y
avait 10 équipes,
5 journées.
Norvège, évidemment, il a été allé prendre le chèque, Bernard, mais Fred, ça m'avait échappé qu'il avait pris le chèque là-bas.
Il a pris une playlist aussi.
Bah, il a rajouté à sa playlist la musique indienne.
Il a commencé à vouloir mettre la musique. Il lui a dit dégage.
Ça suffit. Bon, parlons un peu Angleterre, les gars, parce que vous êtes là.
Fred, c'est une playlist, t'as jamais écouté?
Non.
Oh, c'est bien pour toi.
Ouais.
Vaut mieux.
Okay, merci. Ouais,
il a des goûts très bizarres.
Ouais, t'es dur quand même.
Par exemple, un exemple.
Bah, comment ça s'appelle la musique des Antilles là, qui est remix là. Il y a le zouk revisité je sais pas, en fait c'est que des remixes et des medley qu'il a, c'est des trucs, il y a pas une chanson qui est originale.
C'est tu parles du Zouk Love?
Ouais, un truc revisité, on comprend pas, on croit ou on reconnaît le morceau et par-dessus il y a des choses, c'est un mélange.
Ouais, mais Daniel, je crois que personne ne t'a jamais imaginé en spécialiste de musique antillaise. Donc ça va.
Ah, bon, il peut y avoir un ou deux tubes de Francky Vincent, ils vont me faire kiffer. Mais lui, c'est même pas du vrai Francky Vincent, c'est un Francky Vincent remixé.
Francky Vincent le restaurant.
Francky Vincent le restaurant et lui il le remixe.
Bon,
Alice, Seb, ça glisse au pays.
Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Aucun club en demi-finale de Ligue des Champions, quoi. Il y a un recul ou c'est juste
de temps en temps, ouais, comme il dit. Non, qu'est-ce qui se passe? Franchement, bah.
Est-ce que la première ligue est plus importante que la Coupe d'Europe?
Bah oui,
bien sûr. Elle pompe.
Est-ce que c'est une raison?
J'en parlais tout à l'heure avec mon frère en arrivant, et je pense que les équipes anglaises, elles sont programmées première ligue. Je parle des équipes anglaises de manière générale, elles sont programmées première ligue. C'est tellement dans nos têtes, ça a toujours été tellement vraiment imprégné. La première ligue, c'est le championnat le plus difficile, et c'est celui qui nous prend le plus d'énergie. Donc je pense que quand des fois tu vas arriver en Europe, tu vas inconsciemment chercher à avoir ton moment de relâchement. Inconsciemment. Parce que j'ai regardé des matchs de l'Aston Villa contre Lille, par exemple. Je regarde l'Aston Villa tous les week-ends. Je pense qu'ils
Ils jouent beaucoup mieux en première ligue.
Ils jouent
plus d'intensité.
Plus d'intensité. Dans le body language, tu les voyais. Tu sentais que déjà, ils ont pris un peu Lille de haut. Mais parce que la première ligue leur prend tellement d'influx nerveux, de concentration.
Et parce qu'ils sont en train de faire un gros truc, c'est peut-être d'aller en Ligue des Champions.
Et à un moment donné, il faut que tu, là où tu tires, il faut que tu lâches quelque part. Il va falloir que tu lâches quelque part. Et même si Unai Emery, c'est un spécialiste de la Coupe d'Europe, je pense que ça leur prend trop d'énergie pour pouvoir performer, oui, comme on dit, week in, week out, tous les week-ends.
Et puis se dire.
Et en semaine, de la même manière.
Entre aller en Ligue des Champions pour une équipe comme Aston Villa et. Se dire
que la
Conference League, ça vaut quelque chose.
Qui se mord la queue.
Pour Aston Villa, l'événement, c'est d'aller en Ligue des Champions. Pour eux, c'est pas la Conference League, tu vois.
Et financièrement
même
aussi.
Même si Unai Emery kiffe les Coupes d'Europe et qu'il serait très ravi d'en mettre une de plus à son palmarès, aller en Ligue des Champions pour cette équipe-là, c'est un événement.
Il y a un truc dont tu parles dans le podcast. Tu dis se mettre en mode anglais, en mode foot anglais. Tu parles de ça l'an dernier sur la concurrence. En fait, c'est quoi la différence fondamentale avec le recul là? Toi, quand tu es arrivé en Angleterre, et quel est le truc qui t'a frappé dans le vestiaire, dans la façon de voir le foot? Je sais pas s'il y a deux, trois choses comme
dans
ça.
Dans le vestiaire.
Ouais, bah, tu sais, les trucs foot anglais, quoi. Quand tu dis se mettre en mode foot anglais, ça veut dire quoi?
Quand je suis arrivé en essai à Newcastle, par exemple, on a fait un match amical, et moi j'étais bon dans les airs. Quand je venais, j'étais en France, j'étais bon dans les airs. Franchement, mon père, il m'appelait Airbus. Mon père, parce qu'il sautait trop haut. Et là on joue un match contre Doncaster en pré-saison, et j'avais un attaquant, franchement il devait m'arriver ici
à l'épaule,
et les premiers ballons je suis parti à la tête, et franchement il m'a défoncé, il m'est rentré dedans, il m'a bouffé. Premier ballon, il m'a bouffé.
Et t'as bouffé, c'est-à-dire au contact,
il a dévié le ballon, on est tous les deux partis à la tête, je suis monté naturellement, il est venu avec une certaine force, agressivité.
Il était plus costaud que toi physiquement?
Non, t'es pas plus costaud que moi. Il est monté, il avait un jeu de corps, enfin il avait un truc en lui.
Ouais, les coudes, tout ça.
Il a dévié le ballon la première fois. J'ai regardé l'arbitre. Play on, joué. Deuxième fois, pareil. Et là, à l'époque, Kevin Keegan, c'était mon entraîneur. Et il me dit, plus fort. Et il y avait Habib Bey qui était là. Et il dit, Habib, dis-lui, parce que je ne comprenais pas trop l'anglais. Il dit, plus fort, hard. Et je comprends. Et moi, je disais, mais je ne comprends pas. Et en fait, la troisième balle, je suis parti vraiment. Comme un animal, je suis parti.
Comme pour faire une faute en France.
Comme pour
faire une faute.
Je suis monté. Et là, l'arbitre l'a dit, play on. Et là, le coach a dit, there you go. C'est voilà. Et là, j'ai compris. Je dis, ah, ça peut me plaire. Ça peut me plaire.
C'est fait pour l'Angleterre.
L'Angleterre. Et en fait, la différence, c'est que on est arrivé je suis arrivé dans certains vestiaires anglais. C'était vraiment. En fait, il y a personne qui se la raconte. Ils sont vraiment. il y a, c'est d'une.
Et oui, dans les vestiaires anglais, même Beckham ne se la racontait pas.
Beckham, il est venu à Tottenham.
Absolument.
D'accord, à un moment donné, quand il est venu 6 mois à Tottenham, quand il était dans un.
Ouais, à Arsenal aussi, Arsenal, il est parti. Ouais,
il est resté 6 mois. Il devait jouer, il n'a pas pu jouer. On est arrivé dans le vestiaire. J'arrive à l'entraînement. Il était tout autour de son entraînement, c'était bloqué. Des chevaux, la police partout. Et j'arrive dans le vestiaire, il était assis avec Jermaine Defoe, comme ça, en train de discuter. Et inoffensif. Et je lui dis, et moi je l'appelais Spice Boy. Je dis, Spice Boy, c'est pour toi tout ça? Il m'a dit, franchement, je ne sais même pas pourquoi. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, je ne sais même pas pourquoi. Et on parlait comme ça. Ils étaient tellement simples. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, c'est le meilleur championnat pour moi. Mais ils ne se prennent pas la tête. Vraiment, c'est normal. Et c'est ça, la vie anglaise aujourd'hui, c'est cette liberté que tu peux avoir. Quand je suis arrivé, les premiers matchs à 13h, ah ouais, quand j'arrive à 13h, on joue à 15h, on arrive à 13h. C'est plus le cas aujourd'hui.
Ouais, un petit peu moins, mais ouais.
Un peu moins aujourd'hui, mais.
Pas de mise au vert.
On arrivait à 13h. Voiture, tu viens avec ta voiture, je suis la gare sur le parking, tu rentres à 13h, tu te changes.
Pour le match à domicile, là, tu
Pour match
dire.
À domicile. Ouais. Et c'était tout ça, tous ces genres de choses-là, je me suis dit, franchement, c'est bien. Et Kevin Gann, il m'a dit un seul truc. Il m'a dit, tu veux être aimé? Il m'a dit, je te demande pas d'être bon tous les matchs. Parce que je ne pense pas que tu pourras être bon tous les matchs. Mais par contre, si tu peux tout donner tous les matchs, me montrer que tu veux toujours tout donner tous les matchs, je te jure que tu vas être adulé. Et en fait, tous ces genres de petits conseils...
Ça devrait être le cas. En fait, ça ne devrait pas être simplement en Angleterre. C'est
partout.
C'est dans tous les matchs de foot de compétition, à partir du moment où des gens viennent te voir.
Mais là, si tu veux, en Angleterre, t'applaudis
un tacle. Quand des gens viennent te voir, tu dois tout donner.
Ça, là. En Angleterre, t'applaudis un tacle. Quand Seb, il taclait, t'applaudis Seb quand il gagne un duel de la tête, t'applaudis.
On a fait Newcastle-Sunderland. Derby du Nord.
Oui, ça c'est gros derby.
C'était gros derby. Ballon entre Kelvin Jones, vraiment balèze, et moi. C'est-à-dire vraiment 50-50. On y va à fond. On est à St. James Park. Donc quand on y va, le stade, il se lève. Et là, c'est go on, vas-y. Et là, on se rentre dedans. Je l'explose. Mais sincèrement, je me fais super mal au genou. À ce moment-là, parce qu'on rentre dans une collision. Mais je me relève comme un seul homme. Et au moment où je me lève... Ça fait comme Gladiator, tu vois. Et là, tu vois St. James Park qui crie, qui chante comme si j'avais marqué un triplé. J'avais mal, hein. J'étais comme un fou. Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire. J'ai juste mis un vrai tacle à quelqu'un. Et ils m'ont adulé pour ça. Et ça a changé. Et même les gens, comment ils t'abordent dans la rue, l'amour que les Anglais, ils ont, le côté friendly, c'est trop. C'est différent. Et c'est pour ça que je pense que tu disais tout à l'heure, Tu vois des squads, des effectifs. Les gens, tu te dis, mais pourquoi ils restent là? Pourquoi ils sont là? Pourquoi on oublie même qu'ils sont là? Il y a ce côté vraiment friendly de la vie en Angleterre.
Ouais, mais après, est-ce que ça convient à un joueur d'être remplaçant, de jouer, de pas viser la performance dans un autre club? Je veux bien, j'entends que l'environnement Premier League fasse fantasmer les joueurs. Il y a même des joueurs, on va dire, de deuxième catégorie qui savent qu'ils ne peuvent pas toucher à la Premier League. Ils vont kiffer d'aller même en Championship pour être dans cet environnement-là.
Moi, j'ai l'impression que ça bouge quand même. Aujourd'hui, l'Allemagne à la côte, il y a plein de jeunes qui veulent aller en Allemagne parce qu'ils ont l'impression que là-bas, il est également aussi en Allemagne.
Moi, je me dis, si je suis joueur de foot, ouais, ok, ça va me faire triper d'aller là-bas. Mais surtout, je veux jouer, quoi. Je veux être dans une équipe avec un projet. J'ai envie que ça ressemble à quelque chose, mon aventure. Je veux pas juste deux fois par an me faire applaudir par le stade, rentrer.
Moi, il y a un truc quand même particulier dans ce que j'entends aussi et qui est fort en Angleterre. Ce que je trouve génial, puisque j'ai fait un avis, moi, sur la France en disant ce que je trouve dommage, c'est qu'on défend moins bien en France. Je trouve en ce moment, je parle individuellement, hein, même sur l'homme. Et ce que tu racontes là, c'est aussi qu'on met en valeur un truc, les défenseurs et le geste défensif, comme on le met en valeur nulle part.
On n'est pas comme Massong non plus. Hein.
Non, mais je trouve que cette culture-là, dans les tribunes, je parle là pour c'est le coup des
appris,
fans.
J'ai appris à aimer défendre en Angleterre. Quand j'étais à Metz, je défendais parce que j'étais défenseur, mais j'avais encore la mentalité Clairefontaine. On joue
contre-attaquant.
Vraiment. Mais je peux mettre un crochet et une balle. C'était vraiment. En Angleterre, j'ai appris à me dire, c'est bien de défendre.
Le geste défensif,
c'est bien. Et j'avais plus ce complexe de me dire, oh, je vais sortir le ballon quand il faut sortir le ballon.
Bien sûr.
Parce qu'après, ça m'a joué des tours. Parce qu'après, j'ai compris que la mentalité, la vision des choses des Anglais, on n'était pas câblés pareil. Donc, si je voulais vraiment m'imposer, à un moment donné, il fallait faire preuve d'adaptabilité. Et c'est cette différence-là qui fait que des fois, tu te dis, ah, ok, d'accord, l'Angleterre. Mais, Daniel, pour revenir à ce que tu as dit, sincèrement, il y a les émotions du joueur ouais, si tu veux aller en Angleterre, on en a vu des Thauvin, des joueurs qui sont venus, ils ont fait un peu, ils ont voulu vivre le rêve anglais, l'Eldorado anglais, mais je pense que tu n'es pas assez vite revenu sur Terre pour faire face aux faits. Il y a les faits, il y a les émotions, il y a les faits. Pour voir les choses, et ouais, ça fait partie de, de ton expérience, du travail psychologique, de voir à un moment donné, ok, je suis quelqu'un de très émotif, je veux ça, mais dans la réalité, ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer dans ma carrière et vraiment ne pas vivre dans les nuages. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, j'ai les cuissons de Manchester United, mais au bout d'un moment, il y a des joueurs, t'es un squad player, bah, t'es pas un vrai joueur, t'es juste employé de Manchester United. C'est pas la même chose. Il y a des joueurs de Manchester United, il y a les employés de Manchester United. C'est pas la même chose.
Ce qui est intéressant aussi, ceux qui restent sur le banc, c'est ça, c'est ceux qui.
Non, tu peux rester sur le banc, mais après, il y a ceux qui vraiment qui sont là.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, juste pour finir sur le style et tout ça, c'est que moi j'ai joué en amateur le dimanche après-midi, le dimanche matin, le samedi après-midi pour me faire plaisir. Sunday League, c'est la même chose. Alors, avec puissance moins 10 de ce que Seb a vécu en première ligue, mais il joue pareil. Il joue pareil le dimanche matin, c'est les grands costauds qui aiment défendre, qui aiment aller au contact, qui aiment aller, c'est l'intensité. Là, je me rappelle de mon premier match, mais le défenseur qui était derrière moi, il me suivait partout, ça courait, ça allait à 2000 à l'heure. Je me disais, ah ouais, d'accord, c'est pas du tout ce que j'avais connu ici, même à un très bon niveau ici. C'était la même chose que la première ligue, mais à un degré beaucoup moins fort. Mais c'était la même chose. Et en fait, ce qu'ils voient à la télé ou ce qu'ils voient au stade, ils le reproduisent à leur niveau, donc un petit niveau, un niveau moyen, un niveau un peu meilleur, le samedi ou le dimanche. C'est exactement pareil.
On va parler de l'actu anglaise dans quelques instants. Qu'est-ce qui va se passer à Liverpool après Klopp, Manchester United? Et puis, tu as deux, trois trucs à nous faire partager, Julien, également, dans un instant. Les règles de la Cup, notamment, qui vont changer. Il faut que tu nous racontes ça. Ouais. Dans quelques minutes, il est 23h32. L'after revient tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
23h34, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, Julien Laurent est là, Sébastien Bassong avec nous également. Pas mal de messages, on reçoit beaucoup de messages sur Direct Studio sur le foot anglais ce soir. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16 si vous voulez parler avec Seb, par exemple. Il y a quelques supporters messins qui traînent sur Direct Studio là. Bon, là on parle de l'Angleterre, on parle pas de Metz. Je m'excuse les gars, on vous souhaite de vous maintenir évidemment. Bon, faisons un peu le point. Ah oui, la Cup là, parce que c'est un truc là frais là. Ils arrêtent les replays, les matchs rejoués.
Enfin. Trop, mais bah enfin. Franchement, enfin. Ouais,
c'est intéressant, c'est un vrai débat.
Ton micro, Julien. Ouais.
C'est vraiment intéressant comme débat. Seb le dit, il en a joué trop, peut-être. Je pensais aussi pour moi.
Là, c'est un coup de canif dans la culture anglaise.
Et c'est ça le problème, effectivement. Ah, oui. Et surtout pour les clubs de division inférieure, parce que pour eux, c'est vrai que financièrement.
Ah ouais.
Si tu fais un 0-0 chez toi à domicile et que tu vas ensuite à Old Trafford contre United et que tu prends la moitié de la recette, ou que tu fais 0-0 à Old Trafford et que tu reçois ensuite chez toi pour le replay contre United, c'est un match exceptionnel, tout le monde a envie d'être là. C'est pour une ville comme on parlait de Doncaster tout à l'heure, on voit ce genre de club là, c'est fantastique. Le problème, c'est que ça fait un calendrier encore surchargé, que pour les clubs de première ligue, c'est une galère sans nom, et que ça fait maintenant longtemps qu'ils militaient pour enlever ces replays. C'est enfin arrivé. Les clubs de division inférieure ne sont pas contents, forcément. Je pense que tu as d'autres mécanismes que tu peux trouver, notamment financièrement, pour les dédommager dans un sens. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Après, je pense aussi que si tu es Doncaster, tu as plus de chances sur un match, par exemple, parce qu'ils aiment beaucoup ce qu'on fait en France. S'il y a deux divisions d'écart, t'inverses et t'es chez toi, quoi qu'il arrive.
Et ça, ça si les Anglais s'inspirent des Français, ça serait la meilleure, celle-là.
On ne sait jamais. Hein. Mais voilà, il y a d'autres mécanismes. Après, tu as plus de chances, si tu es Doncaster, sur un match à domicile, de taper United que sur deux matchs avec un à Old Trafford.
Ça, c'est sûr.
Mais je pense qu'ils sont beaucoup portés culture à ce niveau-là. Les clubs.
Pas touchés à l'héritage.
Voilà, pas touchés à l'héritage. La tradition et le fait de. Ils sont plus dans la fête que dans l'optique de réellement se qualifier pour aller loin dans la compétition. Ouais. Parce que je pense qu'ils ont. Les clubs de division inférieure, pas la Championship, mais vraiment en dessous, l'occasion de jouer contre un club de Championship ou de Première League, c'est une occasion de faire la fête. Et pour eux, je pense que dans la culture anglaise, on leur retire une nouvelle occasion d'aller au pub et d'aller boire et de vivre des moments.
Une occasion d'aller au pub.
Mais c'est vrai. Mais au final, pour eux, c'est très très important. De la même manière qu'aux États-Unis, on tailgate, ils ont une culture autour du sport. Les Anglais. Les matchs de Cup, surtout la Cup, ça c'est spécial. La Cup, quand on revient en janvier, on te met la pression, même en première ligue, sur le match de Cup.
Pour votre premier match, pour les clubs de première ligue.
C'est le premier match du retour, et on sait que dans les petites divisions, vraiment, eux, là, c'est vraiment, allez, c'est après le Boxing Day, c'est encore la fête, c'est une manière de continuer la fête. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que ça va, que le bail blesse. Mais bon, on ne peut pas contenter tout le monde.
Il y a une autre tradition, c'est la fameuse tradition du blackout du samedi. Raconte ça, Julien, parce que tout le monde n'est pas forcément
Con. Ouais, j'ai eu pas mal de questions sur les réseaux, des gens qui m'ont dit, est-ce que tu peux en parler dans l'after? C'est aussi très intéressant. Cette règle qui existe depuis toujours en Angleterre, qui est aucun match n'est télévisé, que ce soit un match anglais ou un match européen, un match étranger, entre 14h30 et 17h15 tous les samedis. C'est une règle qui date de toujours pour la justification et pour que ça ne puisse que les gens continuent à aller voir notamment leur équipe locale. Donc, si tu es supporter de Manchester United, par exemple, mais que tu habites à Doncaster, encore une fois, on prend Doncaster, la Première Ligue a peur que si les matchs de 15h en Première Ligue, notamment celui de Manchester United, est à la télévision, donc comme en France, tu peux voir n'importe quel match.
Tu n'iras plus dans ton petit club d'à côté.
Voir Doncaster.
Bah, à condition que dans le club d'à côté, ça joue à ce moment-là.
Oui, mais tous les matchs de championnat, enfin la plupart des matchs de championnat,
sont programmés le samedi.
3e division, 4e division sont à 15h le samedi.
Je te signale que ça existait en France pendant des années. Et c'était, en gros, on disait le dimanche, pas de foot l'après-midi, parce qu'il y a les gamins qui vont jouer, parce qu'il y a les petits clubs qui vont jouer. Et ça a fini par pas tenir, puisque maintenant on a mis du championnat.
Et ça a gueulé quand il y a la Ligue 1 à 15h.
Exactement. Ouais. On a étalé les journées le dimanche et tout, mais ça existait
en Ligue 1. Il n'y avait pas de foot
le dimanche, entre, on va dire, le dimanche après-midi, parce que c'était la journée des matchs des gamins. Ça n'a pas gueulé là récemment.
C'est vrai qu'on a eu des matchs en diurne pour la première fois en Ligue 1. D'ailleurs, Zidane à Cannes, tu vois, pour te dire, avec Luis Fernandez, c'était à cette époque-là. Il y a eu des matchs dimanche après-midi à cette époque-là. Ça date un petit peu, dans les années 90. Et là, ça a été une révolution, parce que, et ça s'est arrêté pour cette raison-là, parce que, effectivement, c'était la tradition qui est les matchs amateurs le dimanche. Puis après, finalement, les droits télé ont tout emporté, et la tradition. Mais la force de la tradition, n'est pas la même ici en France.
Là, ce que tu veux dire, c'est que le blackout du samedi, ça risque de se terminer.
Je pense qu'à un moment, pour gagner plus d'argent dans les droits télé,
Ils en sont déjà, je sais pas combien de milliards.
Oui, mais ça stagne.
Ça s'arrêtera où,
Gilbert? Oui, mais ça montera plus. Maintenant, ça montera plus. Ah oui. Le seul moyen pour monter, c'est peut-être cette case-là de 15 heures. Ça change ou qu'il se passe quelque chose, que tu fasses un mini multiplex, je sais pas moi, quelque chose comme ça. Mais le plus fou finalement dans cette histoire, c'est que ça touche les clubs, les matchs européens. Donc un classico qui commence à 15 heures en Angleterre, tu le vois pas. 15h-17h le classico un samedi, il est pas télévisé en Angleterre. Un match qui commence à 17h ou le match de Ligue 1 qui est pour nous à 16h le samedi. Tu vois la dernière demi-heure. Un match qui commence à 17h heure anglaise, et ben le premier quart d'heure, tu vois pas. T'arrives, ils prennent l'antenne, mais ils prennent l'antenne, t'as la pub, et ils prennent l'antenne à la 16e minute.
Mais du point de vue du téléspectateur, tu payes très cher ton abonnement, et donc t'as pas le match en fait.
Non. T'arrives à la 16e minute, donc t'as
sorti. C'est bizarre.
Ça, c'est un truc de fou quand même.
Bah, j'aime bien les Anglais être bizarres.
Ouais. C'est la spécificité dont on parlait tout à l'heure, c'est les spécificités.
Et je pense que vraiment, ils s'en gargarisent. Ils aiment ce côté, on fait quelque chose qu'on a un peu démocratisé dans notre pays, dans notre région, que personne ne va comprendre.
Ah, c'est ça.
Ouais, que personne ne va comprendre, ouais, mais que quand même, pareil. Vu qu'on a le plus d'argent, or, ça veut dire, ils vont quand même s'aligner, les gens. Et les gens, ils vont quand même venir. Et ça, je pense que c'est une mentalité. Ouais, ils sont fiers de ça. Et nous, ça nous. Voilà, on s'est habitué. Hein.
Tiens, ouais. François est là au 32-16, il veut parler de la première chip. François, bonsoir.
Bonsoir, Gilbert, bonsoir à tous.
Toi, tu suis Leeds, c'est ça?
Exactement. J'étais passé il y a un an, quand on était descendu de la PL en Championship, à l'époque où Bielsa avait été remercié. J'avais découvert évidemment Leeds avant leur arrivée, leur retour en Première Ligue. Et je voulais juste que Julien puisse nous parler un petit peu de la Championship, parce que pour moi, c'est vraiment la quintessence d'un championnat de football.
C'est diffusé où en France, la Championship, maintenant?
Bein Sport, non?
Bein Sport.
Ouais. Bein, c'est diffusé? Combien ils diffusent tous les matchs ou
Tous les matchs de Ligue, quasiment, je dirais 8 à 9 matchs sur 10, c'est diffusé en VO sur Bein Sport. Et je voudrais que Julien nous en parle un petit peu, parce que comme je disais, c'est pour moi la quintessence d'un championnat de foot. 24 équipes, 40
matchs.
C'est
incroyable.
C'est le truc, c'est tellement long.
Avec le playoff à l'arrivée.
Pour ceux comme. J'imagine, François, tu as regardé hier le Middlesbrough Leeds, qui était en même temps que le Milan Inter, mais pour ceux qui avaient deux écrans ou deux télés. C'était fantastique, c'était une ambiance de fou. Middlesbrough, c'est une belle équipe en plus, qui joue bien, vraiment bien au ballon avec Carrick.
Ça fait longtemps qu'ils sont plus en première ligue.
Ils ont été pro, ils sont pas loin de pouvoir remonter, mais là le niveau est tellement élevé entre Leeds, Leicester et Ipswich qui sont les trois. Deux vont monter directement, les autres si ça ira dans les playoffs. Mais c'est une saison fantastique, vraiment, dans le rythme. Dans
Middlesbrough, une de leurs heures de gloire. C'est pas quand il y a ton coach préféré qui
c'est est... ça, c'est ça, le Sylvain Ripoll anglais. Exactement.
C'est avec Comboiré, avec Carambeu, pardon, surtout.
Et Carambeu, tout à Carambeu. Fait. Ils ont eu Juninho, rappelle-toi, le Brésilien Juninho, le petit.
Oui, Arnaud Bucano.
Ouais.
Non, Juninho Paulista.
Paulista. Juninho, c'est le nôtre, pardon. Oui, le petit, là.
Ouais, fantastique joueur.
Je commentais la Champions, la Première Ligue à l'époque.
Ouais, c'est ça.
Avec Middlesbrough et
ouais,
tout.
Ouais,
il y avait Franck Kudru.
Exactement, Franck Kudru. D'ailleurs, ils vont en finale de Coupe d'Europe.
Stuart Downing, qui était international en plus.
Ouais, tout à fait.
Mido, placé gauche, là-bas.
Stuart Downing. Donc là, ils sont un peu courts. Middlesbrough, ils sont 9e. Je ne pense pas qu'ils accrocheront les playoffs. Mais sinon, entre Leeds, Leicester et Ipswich, c'est vraiment très bien ce qui se passe. J'espère pour toi, François, que Leeds pourra monter. Il vous reste deux matchs. Ça va jouer à rien du tout. Sinon, tu auras les playoffs.
Oh, bah, c'est magnifique de monter via les playoffs.
Ah ouais, c'est incroyable.
Moi, je suis monté avec Norwich.
Ah oui, exact.
T'as fait une montée avec le tournoi final. Oh là là, oh, le bordel. Et que
la
c'est.
La finale à Wembley.
Avec les matchs à Wembley, c'est ça.
Combien ça fait de matchs
contre, et ça a été contre Middlesbrough qu'on a gagné.
Ouais.
Ah ouais. Franchement, c'était. Si à choisir, j'aurais pas préféré monter directement. Vivre cette finale à Wembley,
ah ouais.
Comme ça, non, c'était franchement un de mes meilleurs souvenirs dans le football.
Ouais.
C'était juste incroyable.
C'est quoi, c'est moite-moite dans le stade chaque
45-45.
Ouais, 45-45.
C'est incroyable.
C'est vraiment.
Je l'ai vu, ça. C'est...
Tu le vis et sincèrement, c'était fort. Donc, oui, la Championship, c'est vraiment spécial. Et je dirais même que pour ceux qui ne l'ont pas joué, c'est pas un mal de jouer la Championship parce que ça te montre un côté différent du football. Une intense. Quand tu peux vraiment. Performer en championship avec un bon et après rester en première ligue.
Est-ce que tu disais de l'intensité
au niveau
tout
des contacts,
ouais.
Quand t'as joué
à l'ancienne, ouais, ça.
Là, t'aurais pas eu besoin de ton match bon à Doncaster.
Non, franchement, le niveau d'intensité de la championship,
ouais.
mardi, samedi, ouais. Ou mercredi, à ce niveau-là, des fois, tu vas dans des stades le mardi soir, ça cogne, ça va. Des fois, ça va vite quand même. Techniquement, c'est moins fort.
Bien sûr, les terrains sont moins bons.
Techniquement, c'est moins fort, mais quand même, ça te donne des oppositions où tu dis, t'apprends beaucoup, et quand tu finis, tu montes.
Donc ça fait 46 matchs en saison régulière, plus le play-off pour ceux qui vont monter.
Voilà, ça, donc entre 3e et...
Est-ce que t'as encore plus dans ce championnat les coachs un peu rudimentaires?
Ah ouais.
Ouais, surtout. Beaucoup en championnat.
Tout à l'heure, tu le disais, je t'ai pas interrompu, mais bon.
Mais...
Moi, c'est une idole de gamin, mais en coach, qu'est-ce qu'il était nul.
C'est un manager.
Qu'est-ce qu'il était nul en coach.
Tactiquement, c'est zéro. Dans le management.
Les Anglais, je vais te citer des joueurs qui étaient fabuleux, mais qui ont été des coachs.
Attends, je veux l'anecdote sur Kigan. Je l'ai senti venir.
Mark Hughes. Mark Hughes, mais bidon. Mais coach bien. Mais joueur tellement. J'adorais ce joueur. Mais coach bidon. Alan Shearer, mais bidon,
tu parles de manager, mais Alan Shearer, l'aura,
le charisme,
on n'avait pas besoin qu'il soit un bon manager, qu'il soit un bon coach.
Bon entraîneur.
Pour lui, quand il arrivait, mon Dieu, franchement, c'était un plaisir d'être mal coaché par Alan Shearer. Non, mais extraordinaire. Kevin Keegan, quand tu arrives et il te parle, vraiment, comme, et c'est vrai en plus, hein, franchement, il arrivait sur le terrain, c'est limite, s'il ne parlait même pas.
Il y en a, ils ne vont même pas sur le terrain d'entraînement. Il y en a, ils ne vont même pas.
Mais dans le podcast, tu as eu Rednap.
Il n'avait pas de table noire.
Il avait les business à faire au téléphone.
Puisque j'ai écouté le podcast en entier qui était intéressant, il y a une anecdote que tu racontes que à l'époque, tu as Keegan comme coach.
Ouais,
et
Michael Owen et.
T'as Owen et un autre joueur, Butch, je crois.
Et Nicky Butch.
En gros, ils vont voir le coach, ils disent bon, aide-moi, maintenant, il faut faire jouer le petit.
Le
Keegan, il fait oh, ok, alors.
Non, mais c'est fort parce que Kevin Keegan, il me dit je jouais pas au départ. Je jouais pas parce qu'il y avait beaucoup de défenseurs, bref. Et un jour, parce que je m'entraînais bien, j'étais bon. Je pense que j'étais le meilleur. Je veux dire, j'étais le meilleur. Non, c'est vrai, j'étais le meilleur.
Il est camerounais ou pas?
Il est parisien, camerounais.
Ça fait beaucoup.
T'inquiète pas.
T'es pas trop dit par hasard.
En fait, à l'entraînement, Michael Owen, il va voir Kevin Keegan et Nicky Butt, qui étaient deux quand même superstars. Et c'est là où Michael Owen et Nicky Butt, ils lui disent, écoute, coach, on sait qu'il y a de la politique, on sait qu'il y a telle chose, mais le meilleur, c'est le petit. Donc en fait, il m'appelle. Et il me dit, c'était drôle, parce qu'il me dit, Michael, Mo, comme on l'appelait, Mo, est venu me voir et Nicky. Donc, comme ils m'ont dit qu'il faut que tu joues, c'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. C'est comme ça qu'il m'a dit, est-ce que t'es prêt? Je dis, oui, je suis prêt.
Tu t'as pas initié au Paris Olympique?
Non, c'était pas Lucien Riquet, quoi.
Je pense qu'en fait,
il a perdu tout son oseille aux chevaux.
Il arrivait avec des sacs plastiques, tu vois, un peu comme des sacs, ou je sais pas, des sacs plastiques. Michael Owen, Nicky Butt, Shay Given, ils arrivaient tous les matins avec des sacs comme ça, remplis de billets. Ils avaient leurs journaux comme incroyable. Ça, tu vois, et ils jouaient les jeux. Michael Owen, il avait son truc de posséder une jambe.
Ouais, il est propriétaire de chevaux.
Il n'a pas de cheval en entier. De la folie, comment? Et ils ont vraiment dépensé énormément d'argent. Mais je les ai vus arriver avec des sacs plastiques. Hein. Mais même pas.
Ah, mais Owen est connu pour avoir
un hélicoptère.
Il a pas de
Owen.
Il
arrive en hélicoptère, Michael Owen. Parce que, tu vois.
Il habitait encore à Liverpool. Il allait à Newcastle en hélicoptère.
En hélicoptère, il se posait un peu loin.
Ok, ce genre de Newcastle qui a tout perdu aussi au Paris sportif.
Ça, Owen, je ne savais pas du coup de l'hélicoptère.
Non, si, il arrive en hélicoptère.
Mais les gars, il ne faut pas faire deux discussions parallèles.
Michael Owen, le coup de l'hélicoptère, ok. Mais, je veux dire, je ne sais pas comment dire, plus humble que Michael Owen, il ne parle pas à Michael, silencieux. Vraiment, Michael, c'était, moi-même, j'étais surpris parce que je suis arrivé, je me suis dit, c'est Michael Owen, je joue avec lui à la play et tout.
Ballon d'or, Michael Owen.
Et en fait, il ne parlait jamais. Vraiment, et des fois, il était désolé.
Ah non, il suivait les cours. Récemment, il a pas mal parlé en texto, il s'est fait attraper par les tabloïds.
Ah ouais?
Oui, Madame Owen, t'es pas très très content.
Mais tu vois, tout à l'heure, ça me rappelle, je sais pas si la discussion elle a eu à l'antenne ou c'était pendant la pub, quand tu me dis que tu comprends pas bien l'expression il méritait mieux ou il a eu ce qu'il mérite. Pour Michael Owen, là pour le coup, je suis d'accord avec toi. Le gars est ballon d'or, c'est un attaquant merveilleux. Si sa carrière s'est terminée comme ça, bon, c'est de son fait. Il s'entraînait moins bien, les canassons ça l'intéressait plus.
Michael était diminué par ses blessures. Ouais, Michael avait trop peur. Michael arrivait comme il était vraiment psychologiquement touché par quelqu'un qui arrive vite sur lui parce que les blessures qu'il a reçues, elles l'ont vraiment traumatisé. Donc ça fait que dès qu'il arrivait à un demi-contact, inconsciemment, un peu comme Jonathan Woodgate, tu vois, comme Woodgate. Michael Owen.
Woodgate, il a sa carrière foutue. La façon dont il a été blessé, il n'est jamais revenu, le gars.
Et c'est ça,
lui, mentalement. Il se blessait tout seul.
C'est star, ce mec-là. Hein.
Ah ouais,
il se blessait tout seul.
À la gourcuff.
Dans sa tête. Et c'était Michael Owen, je pense que c'est ça qui l'a vraiment tué. Après, oui, les paris, etc.
Après, mais bon, quand tu mets autant d'argent, enfin les paris, ça l'a plombé complètement aussi. Hein.
Allez, dernière petite pause et ensuite on continue la discussion.
Ah oui,
t'as
fréquenté du bon monde. Ah oui, ces mecs-là, c'était quelque chose.
Marc dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h51, Florent Gautreau, Daniel Riolo, Julien Laurence avec nous ce soir et Sébastien Bassong. N'oubliez pas le podcast disponible sur toutes les plateformes, j'imagine.
Oui.
Voilà. Ballon, main, corps. Voilà, si vous ne connaissez pas pour l'instant l'explication.
Il le kiffe son nom. Hein. Ballon, main, corps. On se dit c'est quoi ce nom.
Et d'ailleurs, est-ce que Raviou a été invité?
Il n'a pas encore été invité parce qu'on l'a invité à la fin. Non, on l'a vu aux 50 ans de l'INF Clairefontaine. D'abord, quand on a lancé le podcast, on lui a demandé.
Ouais, quand même.
On l'a appelé, on lui a dit voilà, monsieur, on veut, parce qu'on l'appelle toujours monsieur. On veut faire ça. Il a dit oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Avec sa grosse voix, il était content. Aux 50 ans,
il a voulu parler avec lui de préparation des séances de tir au but. Non, ça aurait été peut-être intéressant.
Non, je ne peux pas me permettre. Ça reste mon surveillant, mon coach. Il y a un respect dans la confrérie et la secte.
Ouais, enfin bon, on a quand même perdu en finale. Hein.
Ah, mais il est Camerounais, je te rappelle. Il est Camerounais, Sébastien, donc il s'en fout qu'on ait perdu en finale.
Oui, après, non, on s'en fout pas. En plus, c'est pas vrai. Je m'en fous pas parce qu'il faut pas se mentir. Je dois énormément et même tout à la France. Donc, parce que j'étais formé à l'ENF Clairefontaine.
T'as fait les équipes de France de jeunes, toi, avant de.
J'ai fait les équipes de France des jeunes. Donc, au final, non, c'est comme. J'ai joué pour le Cameroun, je suis Camerounais. Mais la France, aujourd'hui, moi, je comprends pas les gens qui veulent opposer les gens. J'ai grandi en France, je suis né à Paris. J'ai eu la chance d'avoir cette double éducation. Et aujourd'hui, je me considère comme un riche parce que je peux avoir les deux. J'ai le sur du
Rhône. D'ailleurs, tu parles de Paris beaucoup.
La banlieue, oui.
Non, mais même du PSG, enfin, de jouer à Paris, c'était dans ta tête, c'était un.
J'en ai parlé un jour dans le podcast. J'aurais bien aimé, mais j'aurais pas supporté. J'aurais pas supporté parce que me connaissant aujourd'hui, étant issu de la banlieue, etc. Moi, avec la connaissance de moi, le travail que je fais sur moi. Je ne pense pas que je puisse supporter de jouer dans le club dont je suis amoureux et avec tout mon entourage autour de moi.
C'est compliqué.
Je l'ai tellement dit, c'est compliqué. Mais après coup,
ouais, quand tu vas
chercher, ouais. Non, tu peux pas. C'est
intéressant parce qu'on l'a souvent dit pour plein de joueurs qui l'ont fait ou qui l'ont pas fait. Norwich. Anelka,
c'était peut-être un bon choix.
Moi, j'ai eu les mêmes sentiments. C'est pour ça moi aussi j'ai choisi de pas aller au PSG.
C'est pour ça que j'ai toujours été réticent quand il y avait le fameux fantasme de faire jouer plein de gamins de la région ou plein de gamins du club ensemble. Et c'est moi qui supporte un petit peu le club de temps en temps quand je suis pas dans l'exercice de mes fonctions. J'ai toujours été extrêmement réticent et j'avais toujours très peur de ça.
Je pense que même à Thème Ben Arfa, je pense qu'il était
très attention à ça. C'est le piège à con.
Il en avait conscience à Thème aussi.
Si tu le fais, il faut être sûr de toi et sûr de quand on dit de ton entourage, c'est-à-dire qu'il faut avoir les garde-fous nécessaires et efficaces. Non mais efficaces.
Très compliqué les garde-fous à notre époque.
Très compliqué.
Parce que le garde-fou il peut devenir fou.
Non, c'est pour ça qu'il faut m'en.
Excuse-moi de faire le naïf, mais la fête, c'est quoi? C'est les raquettes?
Ça existe. Mais ne serait-ce que d'avoir l'entourage, les gens, tes amis, si t'es loin, plus t'es prêt, plus t'as d'amis, quoi.
Bah oui.
Et l'ami de l'ami devient ton ami.
Et plus, si tu sors, il faut faire croquer 10, 20 personnes. La demande est beaucoup plus palpable. Aujourd'hui. Moi, je suis juste l'autre côté de la Manche, non? Mais ce n'est pas la même chose que quand je suis à Paris. À Paris, je suis plus accessible. Là, il faut passer la Manche pour venir me trouver. Le téléphone, je peux l'éteindre quand j'ai envie. Mais quand on est issu de Paris, de la banlieue ou de Paris, et qu'on joue au PSG, on est accessible.
T'as plus d'amis, plus de cousins.
En fait, on peut trouver, on va trouver. Si on le cherche, on va trouver. Là, moi, pour me trouver, il faut passer la Manche. Donc, je pense que, même émotionnellement parlant, c'est très difficile et je pense que les joueurs qui sont issus de Paris, qui ont ce rêve, encore une fois, on revient entre tes émotions, ce qui est palpable, ce qui est réel, ce que tu peux vraiment accomplir et ce dont tu rêves. C'est pas la même chose et je pense pas que tu dois le placer au même niveau.
Bon après, je sais pas, Kimpembe, j'ai pas l'impression par exemple que ce soit...
Non mais c'était différent quand t'es passé par le centre de formation.
C'est une règle qui touche beaucoup de gens, et dans cet exemple, t'as l'exemple de Sébastien qui est un exemple sain, t'as l'exemple que tu as commencé à évoquer. C'est ce qu'on sait de joueurs de la banlieue parisienne qui ont eu des problèmes de raquettes, de pression énorme et qui... On trouvait ça formidable d'aller en Angleterre et d'être loin et de mettre la manche.
D'aller ailleurs en général, ouais,
tout à fait.
Le problème Kanté, tout le monde est au courant. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois que je lisais Kanté, ce serait formidable qu'il vienne au PSG. Arrêtez de raconter n'importe quoi, il ne viendra jamais.
Julien, c'est grandir
quand tu grandis au sein du club,
c'est pas pareil.
Pas pareil.
C'est pas. Les gens qui sont
avec Kimpembe sont très particulier parce que Kimpembe en fait c'est devenu l'espèce de mascotte finalement parce que issu de la zone de formation parce que Kimpembe toi qui étais un défenseur enfin Kimpembe c'est juste Basile Boli avec le club du PSG en fait.
Non, je suis pas d'accord, c'est mieux. Basile Boli si tu veux c'est Mumbagna en défenseur.
Non mais symboliquement, tu avais un attachement avec Marseille.
Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Tu rigoles?
Ah, tu dis quoi? J'ai fait tout. Non mais je dis ça. Ah le faux cul.
Moi je te dis que Kimpembe, c'est symboliquement l'attachement à Paris, oui, comme Boli à Marseille. L'est. Voilà.
Non, Boli n'a pas grandi à Marseille.
Il n'a pas grandi à Marseseille, c'est pas du tout.
Boli n'est pas issu du cru. Kimpembe, c'est la banlieue, c'est le centre de formation, c'est Verneuil, c'est le centre de formation, c'est le petit jeune qui vient pousser les autres dehors, c'est le petit jeune qui vient, qui aspire à jouer au Parc des Princes titulaire, c'est le petit jeune qui prend le brassard de capitaine, c'est autre chose. Et lui, il est beaucoup plus armé, parce qu'il n'a pas eu de départ. Il n'y a pas eu cette linéaire dans le fait d'être à Paris.
Mmh. Ouais. Il est plus armé. Gros Mathieu, ça a été compliqué. Mathieu a eu des emmerdes. Mathieu a eu beaucoup d'emmerdes. Jouer au PSG, je pense que ça lui plaisait. C'était son truc. Il l'a fait. Et mieux que bien, d'ailleurs, tellement il a été surprenant d'abord, puis excellent ensuite. Et il a eu des emmerdes. Oui, bien sûr qu'il a eu des emmerdes. Il a eu des faux amis, ouais, bien sûr.
Il nous reste une minute. Juste, je vais vous signaler que Giroud ne jouera pas les Jeux Olympiques. Ça a été dans les tuyaux à un certain moment. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
LA.
Voilà, comme il va jouer en MLS l'année prochaine.
Dommage, j'avais un pari en ante-poste en buteur en finale des JO.
Ah, tu dirais ça ?
Ah, bon, bah, déjà fait ça.
Bah, c'est foutu. Donc, il va signer à Los Angeles
lui,
avec Hugo Lloris.
Michael Owen, je ne sais pas ce qu'il fait.
Franchement,
avec
je suis en train de penser à ça. Je me suis dit,
franchement, en France, je peux lui trouver des tuyaux à Michael.
Et la victoire d'Arsenal contre Chelsea 5-0 ce soir aussi.
Mais ça, j'ai même pas parlé.
Mais on est parti sur des sujets super intéressants.
Julien, fallait pas arriver trop tard pour avoir le premier but.
4 minutes.
Il y a 50 secondes, si tu veux.
Est-ce qu'en Angleterre, on le dit que c'est le fils caché de Clément Turpin ?
Ah ouais, on en a parlé beaucoup le jour où Turpin l'a arbitré. Ah. Avant, pas trop.
Il a arbitré
Turpin,
son fils.
C'est Turpin où ? Là, c'est vrai, on les a vus. Sur la mi-temps, en plus, ils marchaient tous les deux vers le tunnel. Là, c'était les frères jumeaux.
Son fils.
Grosse victoire d'Arsenal. Mmh. Première période, pas forcément.
Grosse défaite de Chelsea.
Grosse défaite de Chelsea. En seconde période, ils les ont nettoyés. Ils les ont.
Il y a 2-3 joueurs à Chelsea, je les récupérerais. Hein. Un ou deux, là.
Ouais, il y en a plein aussi que tu voudrais pas. Hein.
Mais Enzo, je le sors de ce marasme.
Ah là, mais là, c'est catastrophique.
Le sort de ce marasme, il va se perdre. Hein.
Par moment, c'est mieux et par moment, c'est catastrophique.
Il n'y a aucune
constance, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de directrice. J'ai entendu parler de lignes directrices.
Et c'est là où tu vois que, franchement, Chelsea, pour moi, je ne les ai pas vus faire un réel, vrai match. Je ne dis même pas bon, je dis vrai match. Et c'est que des fulgurants de temps en temps, 10 minutes par là, 10 minutes par là. Et pour moi, ils n'ont pas les joueurs. Ils n'ont pas les joueurs assez de qualité pour représenter Chelsea. Et là où ils veulent aller, il va falloir faire un grand ménage. Mais après, on le dit plus un petit moment.
Ils pensent à 1,2 milliard à un ménage maintenant.
Les frérots, là, envoyez un peu des mecs à Strasbourg.
Ils donnent simplement le 2 à Strasbourg.
Pas mal. J'ai pensé à toi le jour.
Merci Sébastien d'être venu. Tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu. Julien Buga tout le temps. Et puis nous, on revient demain avec les matchs de Ligue 1. Bien sûr, qui seront tous sur RMC. N'oubliez pas d'ici là d'aller sur l'after.media. Il y a encore quelques abonnements à prendre avec le code RMC24. 20% de réduction sur les abonnements annuels sur l'after.media. Vous rentrez le code RMC24. À demain soir.
RMC, l'after foot.